Alors, il est vrai que c'est intéressant que vous venez d'entendre que la parole de Dieu est d'actualité, parce que j'ai amené avec moi, ça date de novembre, c'est tiré d'un magazine, et c'est quelque chose qui s'appelle les récits d'expérience de mort imminente, EMI. Et si j'ai amené ça avec moi, c'est parce que il y a un rapport avec la parabole que je vais ouvrir maintenant, qui s'appelle la parabole du mauvais riche et de Lazare. Elle se trouve dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 16. Alors j'ai choisi cette parabole comme celle de ce soir, comme celle de demain, parce que elles ont un lien avec la compassion. Et c'est un attribut, c'est une qualité, c'est une vertu qui revient très fréquemment dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau, parce que comme a dit Jésus, vous aurez toujours des pauvres avec vous. Et pour Dieu, c'est très important. Vous savez tous, vous avez tous remarqué que l'Éternel était toujours soucieux de la veuve et de l'orphelin. Et on retrouve ça. En ce moment, je suis en train de travailler le livre de Michée, donc dans la série, comment elle s'appelle cette série, quand même? C'est drôle, ça. Voilà, c'est ça. Dans la série Chemin de vie, donc il y a 1300 émissions. Je suis dans l'émission 1116, je crois. Et c'est dans le livre de Michée, un des petits prophètes. Et justement, une des grandes indignations de Michée, c'est que les Israélites abusaient au niveau social de leurs confrères, de leurs contemporains, de leurs prochains. Et en particulier, c'est marqué, hein, des veuves et des orphelins dans le chapitre 2. Mais là n'est pas le sujet. Mais n'empêche que ces paraboles ont un lien avec la compassion. Et c'est vrai que ça tombe un peu bien au mal, dans le sens que nous sommes en pleine crise. Enfin, c'est ce que disent les médias. Moi, j'ai l'impression que ce mot est tout. On a toujours été en pleine crise, presque. Et donc, comme vous voyez aux actualités le soir, par exemple, les restaurants du cœur, il leur faut toujours davantage de victuailles parce qu'ils ont davantage de gens qui viennent. Et ça augmente d'année en année. Maintenant, on trouve des familles, on trouve des étudiants, etc., qui n'ont pas à se loger. Bon, bref, la parabole du mauvais riche et de Lazare, je l'ai aussi choisie parce qu'elle est difficile. Moi, je sais que la première fois, la deuxième, et que je l'ai lue, la deuxième fois et la troisième fois, elle me met mal à l'aise. Voilà, c'est pour ça que j'ai choisi. Luc 16, versets 19 à 30. Pourquoi elle nous met mal à l'aise? Parce qu'elle semble dire que la vie n'est vraiment pas juste. Mais voilà ce qui nous inquiète quand on lit cette parabole. Si la vie n'est pas juste ici, la parabole semble dire que dans l'au-delà, tout sera rééquilibré. C'est ça qui me met mal à l'aise. Lazare, n'est-ce pas? Lazare a souffert ici-bas, il est consolé dans le royaume des cieux. Le mauvais riche a une vie de rêve et donc il est automatiquement dans la souffrance, dans l'au-delà, après sa mort. C'est ça qui est inquiétant, parce que quand on la lit, c'est la première lecture, c'est ce qui nous saute aux yeux. Cette histoire nous dérange donc parce qu'elle enseigne que si tout va bien pour vous ici-bas, et c'est peut-être le cas des gens qui sont frontaliers avec la Suisse ou l'Allemagne, hein. L'Alsace aussi est une région très prospère. Si tout va bien pour vous ici-bas, vous avez une réservation en enfer, automatiquement. Et si vous êtes un SDF, eh ben, c'est le contraire, une place au ciel vous attend. Voilà la chose qui nous saute aux yeux quand on lit cette parabole. C'est ça que je trouve difficile, que je trouve. C'est la même chose avec un peu moins la parabole de ce soir, mais c'est pareil la parabole de demain qui est sur la femme syro-phénicienne qui vient demander de l'aide à Jésus et qui est très mal reçue. Elle est reçue comme un chien dans un jeu de quilles et ça nous met mal à l'aise. D'habitude, Jésus ne reçoit pas les gens comme un chien dans un jeu de quilles. Et quand on lit cette parabole, donc, qui est pour demain, c'est la première impression. Mais les impressions premières peuvent être trompeuses. Alors, cette histoire-là du mauvais riche et de Lazare, il faut bien la situer dans un contexte. C'est toujours très important pour essayer de comprendre, mais qu'est-ce que Jésus a voulu communiquer? Parce que certaines paraboles, il nous les a expliquées, mais celle-ci, il ne nous l'explique pas. Alors, pour la comprendre, il faut remonter à ce que Jésus a dit un peu plus tôt. Il a d'abord raconté l'histoire de l'intendant infidèle. Alors, c'est aussi une parabole qui nous met très mal à l'aise, puisque le patron qui a été trompé, mais alors quelque chose de comme il faut, il félicite le mauvais intendant. Donc, elle fait suite à cette parabole. Et puis, cette parabole de l'intendant infidèle est suivie d'un petit poème. Un petit poème sur l'argent qui sert d'introduction à la parabole du mauvais riche et de Lazare. Alors, c'est Luc 16, 9 à 13. Luc 16, 9 à 13. Alors, je vous donne la référence parce que je ne vais pas la lire, mais regardez-la parce que dans ce commentaire, donc ce commentaire fait suite à la parabole de l'intendant infidèle. Dans ce commentaire, Jésus pose trois questions. La première question, alors à la fin de ce commentaire, il est écrit « Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon ». Alors Mammon, c'est pièce de monnaie en hébreu, et c'est un mot pas hébreu, en fait c'est araméen, et il signifie l'argent, les possessions matérielles. Alors il donne dans ce commentaire, que vous pouvez avoir devant vos yeux, Luc 16, 9 à 13, il pose trois questions, ou il fait trois commentaires. Il dit trois choses. Premièrement, il dit, c'est la première chose que je veux souligner, qui est à la fin de ce commentaire, il dit, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. Hein, c'est comme ça qu'il finit. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bon, nous sommes devant ce choix. Alors, il est vrai que le problème des possessions matérielles, c'est qu'elles prennent facilement les caractéristiques d'une force personnifiée qui cherche à vous rendre esclave. C'est comme ça. Alors, c'est en elles-mêmes, elles sont neutres, mais elles peuvent vite nous accaparer. Les richesses sont nécessaires pour vivre. Hein, nous sommes tous d'accord là-dessus. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe avec les gens qui n'ont rien. Elles sont nécessaires pour vivre et elles peuvent être utilisées au service de Dieu. Hein. On peut faire beaucoup de choses avec de l'argent pour Dieu. Ça va sans dire. Seulement, elles peuvent aussi nous contrôler. La possibilité qu'elles viennent à nous asservir est constante. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux être le maître de mes richesses, je peux les contrôler, mais je ne sais pas comment ce sera demain. C'est-à-dire, à tout moment, les richesses sont là à côté de moi et elles veulent mettre le grappin sur moi. Ça, c'est... Donc, nous vivons dans un état de tension permanent avec les richesses. Un peu moins en France, mais dans certains pays, comme aux États-Unis, on vous rabat les oreilles qu'il faut sans arrêt économiser de l'argent et toujours plus et encore davantage de manière à ce que à préparer votre retraite. Mais on vous dit jamais, c'est d'ailleurs un message dangereux, on vous dit jamais combien il faut mettre de côté, et puis ça dépend combien vous pouvez. Et puis aussi, ce qui est vicieux dans ce conseil qu'on vous donne, c'est qu'on vous présente votre retraite, que vous préparez pendant des années et des années, hein, qui va être dorée, mais on ne vous parle jamais de après la retraite. On oublie que après la retraite, c'est le trou. Hein? C'est le trou dans lequel on va mettre Lazare. Sauf que pour vous et pour moi, on aura peut-être une jolie boîte et puis quelqu'un va faire un joli discours et va dire que j'étais merveilleux. Bon, pour Lazare, ça a été sans tambour ni trompette. Voilà. Donc, les richesses, elles sont difficiles à gérer pour tout le monde. Et qu'on en ait peu ou qu'on en ait beaucoup, ça change rien. Hein. On peut quand même devenir esclave du peu que l'on a. Donc, Mammon essaye toujours d'usurper la place de Dieu dans nos vies. Ça, il faut le savoir. On est dans un état de tension avec Mammon et on vit avec. C'est pour ça que Jésus dit, vous ne pouvez servir les deux. Il faut choisir. Deuxièmement, Jésus demande, dans ce passage de Luc 16, 9 à 13, que je rappelle, je vais me répéter un peu, dans ce passage qui est le commentaire qui suit la parabole de l'intendant infidèle, il dit, Jésus demande, si vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera ce qui est véritable? Luc 16, 11. Que sont les richesses véritables? Alors, c'est les richesses véritables, selon Jésus et selon les Écritures, c'est la vérité de Dieu, c'est la vérité avec un V majuscule, la vérité de Dieu concernant cette vie, c'est l'avenir, c'est la perspective juste de la vie. À quoi se sert la vie? Et donc, la vie est en lien direct avec Dieu. Dieu, il a créé le monde, il a créé l'univers, il a créé l'homme pour être en communion avec l'homme. C'est pour ça qu'il nous a créés. Il ne faut pas croire que Dieu souffrait de la solitude, ce qui apparaît très nettement dans la première épître de Jean, je peux vous le dire parce que je l'ai fini. J'ai fait un Jean et après j'ai commencé Miché. Et un Jean parle beaucoup de la Trinité, et justement de cette union de Dieu avec Dieu, et Dieu n'a pas créé l'homme parce qu'il s'ennuyait, pas du tout. Mais il a créé l'homme pour être en communion avec lui. Donc, ça fait partie des vérités auxquelles nous croyons, et ça fait partie des richesses véritables. Donc, les vérités de Dieu concernant cette vie et la vie à venir, les valeurs éternelles, l'infinie grandeur de la personne de Jésus et la signification de son sacrifice, toutes ces choses que les gens, que nos contemporains ignorent, sont de véritables richesses. Et pourquoi elles sont de véritables richesses? Parce que vous allez les emmener avec vous. On a coutume de dire que quand on meurt, on est né nu comme un ver et puis on finit pareil, on n'emmène rien. C'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. On emmène beaucoup de choses avec nous, en fait. On emmène beaucoup de choses avec nous. Et vous voyez ce magazine-là, enfin, cet extrait de magazine, c'est intéressant parce que moi j'aime bien ce genre de lecture et j'aime bien le lire parce que je le lis avec les Écritures comme point d'ancrage, mais comme juge, comme étalon de mesure. Alors, dans ce magazine-là, je l'ai amené aujourd'hui, cet extrait qui vient du Figaro, du Figaro Magazine, il y a deux grandes choses qui se disent dans ces huit pages. Deux grandes choses. Une qui, à mon avis, est vraie, et une que je sais est tout à fait fausse, parce que la Bible dit c'est faux. Donc, mais on y reviendra. Troisièmement, Jésus demande, donc c'est toujours dans ce petit commentaire, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à un autre, qui vous donnera ce qui est à vous? Alors, les Écritures ne s'opposent pas aux possessions, à l'argent, aux richesses, mais condamnent ceux qui refusent d'accepter que toutes les richesses et tout ce qui existe appartiennent à Dieu parce qu'il est le Créateur. Le roi David écrit, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel, l'univers est à lui avec ceux qui l'habitent. Psaume 24, 1. Ce principe de base est absent de la pensée capitaliste moderne. qui est à moi est à moi. Je l'ai gagné, je le mérite. Non. Tout ce qui existe et tout ce que je possède, j'en suis le gérant. Enfin, tout ce qui existe appartient à Dieu et tout ce que je possède, j'en suis le gérant. Et c'est bien l'opinion, c'est bien comme ça que Jésus voyait les choses, hein, dans ses paraboles et dans son enseignement. Et c'est comme ça qu'il voit les choses dans ses paraboles, dans celle de l'intendant infidèle et dans celle que nous allons voir qui est le mauvais riche et Lazare. Donc, ce principe de base qui va à l'encontre de la pensée moderne, c'est que tout appartient à Dieu. Ça veut dire que ma bagnole, si j'en ai une, mon stylo et l'ordinateur sur lequel je travaille tous les jours, c'est moi qui m'en sers. Il m'appartient à moi. Non, il ne m'appartient pas à moi. Il n'y a rien qui m'appartient. J'en suis le gérant. Et donc, je dois l'utiliser pour mon travail, que ce soit un travail séculier ou un autre. Mais c'est pas, il ne faut pas que je m'attache à cet ordinateur. Les jeunes, aujourd'hui, sont attachés à leur MP3 ou bien à leur moto ou à que sais-je. Mais c'est vrai que ça devrait faire partie de l'enseignement des parents que, en fait, ce que nous avons ne nous appartient pas. C'est comme ça que nous arriverons à ne pas devenir esclaves de mammon. Nous pouvons en disposer, mais toujours en ayant à l'esprit que j'en suis le gérant. Donc, y a-t-il quoi que ce soit qui m'appartienne en propre? J'ai déjà répondu à cette question. Oui, la petite portion de la vérité de Dieu que je comprends et que j'essaye de mettre en pratique m'appartient et je l'emmènerai avec moi dans l'éternité. Donc, en fait, on va quand même partir avec une valise. Elle est invisible, mais on part quand même avec elle. Et ce que nous partons, cette valise, on aura cette valise avec nous pour l'éternité. Et l'éternité, c'est très long. Donc, il est important de faire attention à ce qu'on y met dans cette valise. Dieu examine son peuple pour voir qui est fidèle dans ses possessions matérielles, afin de révéler à ceux qui sont fidèles quelque chose de ce que l'apôtre Paul appelle 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10, les profondeurs de Dieu. C'est le terme que l'apôtre Paul utilise, les profondeurs de Dieu. Quelque chose d'autre de Dieu. Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre et nous avons toujours quelque chose que nous pouvons apprendre de lui. Et donc, c'est en fonction de notre fidélité, en fonction de notre malléabilité, de notre soumission à lui, que Dieu nous révèle davantage le concernant et concernant la vie. Le commentaire de Jésus suite à l'histoire de l'intendant infidèle est suivi d'une référence aux pharisiens. Vous pouvez voir ça, donc c'est dans Luc 16, toujours. Le commentaire de Jésus, donc, est suivi d'une référence aux pharisiens qui, dit-il, c'est Luc qui dit « aimait l'argent et raillait Jésus ». Littéralement, alors en grec, c'est « levait leur nez à son encontre ». Ils n'ont pas dit un mot. La version seconde semble suggérer qu'ils ont dit quelque chose, ils n'ont rien dit. Ils ont levé son nez, c'était un signe de dédain. Un geste de dédain courant en Palestine, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Les pharisiens se sont vexés et ont regardé le Seigneur de haut, mais ils n'ont rien dit. Enfin, ils ont quand même communiqué beaucoup. La parabole du mauvais riche et de Lazare. Pourquoi cette parabole? Parce que Jésus la dirige premièrement contre les Sadducéens. Alors les pharisiens et les Sadducéens, en fait, étaient deux clans qui n'avaient pas grand-chose en commun, sinon qui s'opposaient à Jésus-Christ. Les Sadducéens étaient des gens extrêmement riches, et deuxièmement, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Ils ne croyaient pas en l'au-delà non plus. Donc, vous voyez très bien que Lazare et l'histoire de Lazare et le mauvais riche s'étaient jetés un gros pavé dans leur mare. Bon, voilà un arrière-plan. Nous arrivons maintenant à la parabole. C'est comme si Jésus disait maintenant, je vais vous raconter l'histoire de deux hommes. L'un servait Dieu et l'autre mammon. Alors pourquoi est-ce que je dis l'un servait Dieu et l'autre mammon? Parce que ce n'est pas dans la parabole. C'est ça qui nous manque quand on lit la parabole de Lazare et du mauvais riche. Il n'est pas dit, la parabole ne commence pas en disant, voilà l'histoire de deux hommes, l'un sert Dieu, l'autre sert mammon. On peut peut-être le penser, mais en fait c'est vrai, pourquoi, au regard de ce que je viens de dire, au regard du commentaire de Jésus. Jésus a bien parlé de mammon. Et Jésus, après avoir fait ce commentaire-là, suite à l'histoire de l'intendant infidèle, maintenant il dit, voilà, je vais vous raconter une histoire, je vais illustrer le commentaire que je viens de donner avec l'histoire de deux hommes, un qui servait Dieu et un qui servait l'argent, mammon. Alors cette parabole est donc la troisième d'une série de trois, une trilogie. Dans la première de ces trois paraboles, c'est l'histoire du fils prodigue. Le fils prodigue gaspille l'argent de son père. Luc 15, 11 à 32. Dans la seconde, c'est celle dont j'ai parlé, c'est l'intendant malhonnête, il gaspille l'argent de son maître. La troisième, l'homme riche gaspille son propre argent. Donc vous avez trois paraboles qui se suivent et toutes les trois, il est question de gaspiller de l'argent qui appartient à quelqu'un. L'homme riche gaspille son propre argent, le dépensant sur lui-même. Bon, cette parabole comprend quatre scènes, plus un dialogue en six scènes. Donc nous avons 10 scènes en tout. Le mauvais riche est le sujet des scènes 1 et 4, la première et la quatrième scène. Lazare est le sujet des scènes 2 et 3. On peut aussi scinder l'histoire en quatre scènes d'une autre manière. Réjouissant ses souffrances sur terre, réjouissant ses souffrances dans l'au-delà. Ça, ce sont les quatre scènes qui décrivent une situation avant les dialogues. Bon. Il y a deux personnages principaux. L'un est noble et l'autre ignoble. D'ailleurs, vous remarquerez dans les paraboles de Jésus, quand il y a deux personnages principaux, il y en a toujours un qui est noble et toujours un qui est ignoble. Elles sont construites comme ça. Alors, maintenant, regardons chapitre 16, la parabole elle-même. Dans 16, selon Luc. Il y avait un homme riche, verset 19, qui se revêtait toujours vêtu de pourpre et de fin lin, des habits coûteux et raffinés. Sa vie n'était chaque jour que festin et plaisir. Alors, verset 19. La première scène décrit avec brio, mais de manière succincte, un homme riche qui se donne à fond au plaisir de ce monde. Fond la caisse. Il ne se soucie que de lui-même. C'est bien la description qui est faite. Le temps du verbe se revêtait montre que c'était son habitude quotidienne. C'est-à-dire que tous les jours, il faisait très, comme le roi Louis XIV, hein, ou le roi Louis XV, ou Louis XIII, il faisait très attention comment il s'habillait, de pourpre et de fin lin. Le pourpre était très onéreux, et seuls les vrais riches, hein, pas les faux, les vrais riches, pouvaient s'offrir un tel luxe. Cet homme voulait que tout le monde sache qu'il était immensément riche, donc il faisait du tape à l'œil. Il était très riche, on ne sait pas comment, et il voulait que ça se sache, qu'on se le dise. Le mot grec pour fin lin décrit du coton égyptien de très grande qualité utilisé pour les meilleurs sous-vêtements. Non seulement cet homme s'habillait avec une robe, une tunique, une robe extérieure très onéreuse, mais au cas où quelqu'un serait intéressé, sachez aussi qu'il portait ce qui se faisait de mieux en sous-vêtements. C'est là ce que dit la parabole. À côté de sa garde-robe, cet homme faisait la fête tous les jours. Ah oui, tout ce qui est dit en très peu de mots, nous sommes toujours dans le verset 19. Il faisait la fête tous les jours, ce qui veut dire qu'il ne respectait pas le sabbat. Nous sommes sous l'Ancien Testament et le respect du sabbat était très important. Donc cet homme ne respectait pas le sabbat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ses serviteurs n'avaient pas droit au sabbat non plus. Il n'avait pas droit à un jour de repos et donc chaque semaine, cet homme enfreignait les 10 commandements. Son style de vie excentrique et somptueux était plus important pour lui que la loi de Dieu. Cette injustice qu'il infligeait à ses serviteurs ne lui importait pas du tout. Versets 20 et 21. Un pauvre nommé Lazare était placé, allongé, c'est une forme passive, devant le portail de sa villa, le corps couvert de plaies purulentes. Il aurait bien voulu calmer sa faim avec les miettes qui tombaient de la table du riche. Les chiens même venaient lécher ses plaies. Voilà. Chaque jour, on apportait devant le portail de la villa du mauvais riche une loque humaine. Un mendiant qui avait faim et qui était malade. Il s'appelait Lazare, mais pourquoi ce nom? De toutes les paraboles de Jésus, il est le seul personnage qui ait un nom, alors que tous les autres sont anonymes. Ça veut dire que Lazare est l'exception, et donc que son nom est important. Oui, mais voilà, son nom signifie « Celui que Dieu aide ». Aïe. Ça cadre pas bien, hein? Lazare était couché jour après jour devant l'entrée de la somptueuse villa et des serviteurs lui donnaient probablement des restes à manger. C'était pour ça qu'on l'amenait. Mais en cachette et donc pas suffisamment. Il était tellement malade qu'il ne lui était pas possible de se tenir debout. Il était couché et ne pouvait que mendier. À première vue, il était plutôt un homme que Dieu n'aidait pas. Pourtant, tous les matins, des membres anonymes, ils n'ont pas de nom, compatissants de la communauté, de sa famille ou des amis, on n'en sait rien, le portait là devant cette villa et le ramenait le soir, on ne sait pas où. Les gens qui s'occupaient de Lazare faisaient tout leur possible pour l'aider, mais la seule personne vraiment capable de lui venir en aide était le mauvais riche ou bien l'un de ses invités. Alors, en le plaçant à la vue de tous, ses amis anonymes espéraient que quelqu'un aurait pitié de lui, un peu de compassion, et lui donnerait au moins quelque chose à manger. Voilà la situation jour après jour. Tout ce que Lazare désirait était des restes, mais il n'en obtenait pas suffisamment. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le sens de la phrase, et dans Luc 15-16, il y a une tournure de phrase qui est la même, et ça veut dire qu'il n'avait pas assez à manger. On ne lui en donnait pas assez. Il semble donc que certains serviteurs lui donnaient des restes en cachette, mais la plupart du temps, ces restes étaient jetés aux chiens charognards. Puisque à cette époque, les gens n'avaient pas de chiens comme animal de compagnie. Et donc, les chiens étaient des charognards qui traînaient dans les rues, sauf les petits chiots à qui on permettait d'entrer dans la cuisine. Nous verrons ça demain matin. Donc, le mauvais riche préférait jeter aux chiens charognards les restes de ses repas plutôt que de les donner à Lazare, qui avait faim, qui était malade. Seulement, En fait, Lazare souffrait aussi beaucoup de se sentir abandonné et méprisé. C'était une personne qui avait des émotions comme vous et moi. Non seulement il avait faim, non seulement il était malade, non seulement il souffrait, mais aussi, bon, il était bien conscient de son état. Et c'est vrai qu'il avait des amis qui s'occupaient de lui, mais toute la journée, il était là. Il avait faim. Apparemment, les gens de sa communauté n'avaient pas suffisamment à manger pour eux-mêmes, ce qui était courant à cette époque. Et donc, il entendait aussi les bruits de la fête, jour après jour. Et c'est vrai que c'était une souffrance psychique pour lui. Il voyait des gens qui allaient, qui venaient, et probablement qui faisaient comme s'ils n'existaient pas. Enfin, moi, je ne peux pas... Vous allez dans des grandes villes en France, et puis maintenant... Avant, il y avait le pauvre du village qui venait devant l'église et qui faisait la manche. Et puis maintenant, il y en a partout, dans des points stratégiques. Et puis, si vous voulez survivre, vous êtes obligé de plus les regarder, de plus les voir. Autrement, comment vous faites ? Vous donnez 10 euros à chacun, mais si vous faites les Champs-Élysées, ça va vous coûter cher. Hein ? Et puis, si vous aimez marcher, vous allez vous ruiner. Alors, c'est vrai que même aujourd'hui, nous avons un problème avec ces gens qui sont dans les rues. Et je ne comprends pas très bien comment notre société fonctionne pour qu'il y ait ces gens dans les rues. Mais enfin, ils y sont. Alors, comment est-ce qu'on doit gérer cela ? C'est à chacun en son âme et conscience, mais ce n'est pas facile. Mais c'était un peu... Lazare était là devant le portail, les gens entraient, venaient jour après jour... C'était certainement souvent les mêmes personnes qui étaient invitées. Il avait son cercle d'amis. Et donc, il ne voyait plus Lazare. Il ne savait même plus qu'il était présent. Par contre, les chiens, oui, ils avaient de la compassion. Et le passage de ce passage d'Écriture montre bien que les chiens étaient les amis de Lazare. Et ils venaient lécher ses plaies. Ils avaient de la compassion pour cet homme. Ils étaient ses compagnons et ses infirmiers. Alors, nous avons d'un côté le mauvais riche, vêtu de pourpre et de fin lin, à l'extérieur, à l'intérieur, et de l'autre, Lazare, couvert de plaies purulentes. Le riche qui donnait un banquet tous les jours, Lazare, qui avait toujours faim. Le riche qui était entouré de serviteurs, Lazare, qui était entouré de chiens. Voilà un peu la situation dans laquelle nous sommes. Le pauvre mourut, verset 22. Et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Alors, quand Jésus raconte cette histoire, comme chaque fois qu'il racontait une parabole, il y avait beaucoup de monde autour de lui. Il était assis, c'était comme ça que les maîtres enseignaient. Jésus était un rabbin, il avait aussi la tenue vestimentaire du rabbin. Il était assis et il enseignait ou il racontait une histoire. Donc il raconte son histoire. Il continue et il dit, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Alors comme je l'ai déjà dit, Lazare a été enterré sans tambour ni trompette par ses amis dans une fosse commune réservée aux pauvres. Il n'a pas eu droit à des funérailles ni à un discours pompeux. Par contre, et c'est important, les anges se sont déplacés, l'ont emporté dans le sein d'Abraham et ont organisé une fête en son honneur. Tout ça pour Lazare. Je continue. Le riche mourut à son tour et on l'enterra. Du séjour des morts où il souffrait cruellement, il leva les yeux et aperçut très loin Abraham et Lazare à côté de lui. Versets 22 et 23. Là, vous voyez que on passe aux choses sérieuses, une fois qu'on a décrit la scène, maintenant nous sommes dans l'au-delà. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Avant la résurrection de Jésus-Christ, l'au-delà, ou plus exactement ce que dans les Écritures s'appelle le séjour des morts, avait deux sections, deux compartiments. Il y avait le sein d'Abraham, qui était la résidence des justes, et puis il y avait à proprement parler, l'enfer, qui est l'antichambre du jugement. Donc, Lazare est dans le sein d'Abraham, et puis donc le mauvais riche est dans l'antichambre du jugement. Alors, peu de temps après la mort de Lazare, le mauvais riche mourut, et on peut être sûr qu'il a eu droit à des funérailles dignes de son rang, mais il s'est retrouvé en enfer. Le contraste entre le sort de l'un et le sort de l'autre continue dans l'au-delà. Il y avait un fort contraste sur terre, il y a un fort contraste dans l'au-delà. Alors, il faut remarquer que le mauvais riche reconnaît Lazare et connaît son nom. Ce qui veut dire qu'il savait que Lazare était couché devant son portail, affamé et couvert de plaies. Alors, la parabole lui donne l'occasion de demander pardon pour son indifférence et sa cruauté à son égard. Mais ce n'est pas du tout ce qui va se passer. Le mauvais riche s'écria, « Abraham, mon père, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare, qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre horriblement dans ses flammes. » Verset 24. C'est assez intéressant et peut-être aussi incroyable, mais le mauvais riche ne s'adresse pas à Lazare. Pourquoi il ne s'adresse pas à Lazare ? Parce qu'il ne parle pas au paria. Il apostrophe donc Abraham, son patriarche, et il fait jouer sa carte raciale, car il est israélite, circoncis, un vrai, un pur. Ça ne peut que marcher parce qu'au Moyen-Orient, la famille est le dernier des refuges sur lequel on peut toujours compter. Quand un membre est dans le besoin, il va voir le chef de clan qui, pour sauver l'honneur, est obligé d'intervenir. Après avoir rappelé le lien familial, le mauvais riche lance le cri habituel du mendiant « Aie pitié de moi » Luc 18, 38. Quand Lazare souffrait, le mauvais riche était indifférent, et maintenant que lui souffre, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est ça que raconte l'histoire. Au lieu de demander pardon à Lazare, il veut que celui-ci vienne lui rendre un service. C'est tout juste s'il n'a pas dit « maintenant que Lazare va mieux et peut marcher », parce qu'avant il ne pouvait pas marcher. Maintenant qu'il va mieux et peut marcher, j'ai besoin de lui, envoie-moi-le. Le mauvais riche ne tient aucun compte que Lazare est l'hôte d'Abraham et il est toujours aussi arrogant maintenant qu'il est dans le séjour des morts, tout comme il était de son vivant. Il n'arrive pas à se représenter un monde sans classe sociale. Où lui n'est pas au sommet de l'échelle. Bon, la parabole donne maintenant l'occasion à Lazare de dire quelque chose. Comment va-t-il réagir ? Eh bien, il ne réagit pas. Lazare, du temps où il était sur terre, malade et souffrant, ne se plaignait pas. Maintenant qu'il est dans le sein d'Abraham et qu'il est dans une situation tout à fait différente, il aurait pu se fâcher. Il aurait pu en vouloir à l'homme riche. Mais pas du tout, il ne dit rien. Il n'a aucun désir de vengeance. Il a été décrit comme doux et débonnaire et il est toujours doux et débonnaire. C'est le même Lazare qui était avant sa mort, il est après sa mort. Mais Abraham lui répondit, verset 25, Mon fils, souviens-toi de combien de bonnes choses tu as reçues pendant ta vie, tandis que Lazare n'a connu que des malheurs. À présent, ici, c'est lui qui est consolé et toi, tu es dans les tourments. Abraham reconnaît que le mauvais riche est un Israélite. Mais il lui répond avec le cri habituel du prophète, « Souviens-toi. Souviens-toi que tu as reçu beaucoup. » Et Lazare, que des malheurs, et maintenant il est consolé, et toi tu souffres. Ces quatre rappels correspondent aux quatre scènes de l'histoire qui précèdent les dialogues. Souviens-toi que tu as reçu beaucoup, souviens-toi que Lazare n'a eu que des malheurs, maintenant il est consolé, toi tu étais dans les richesses, lui il souffrait, maintenant toi tu souffres et lui il est consolé. Donc ça correspond aux quatre scènes qui ont décrit le début de l'histoire. Tout ce que le mauvais riche possédait, et il était très riche, venait de Dieu. Le verbe qui est utilisé, « souviens-toi des bonnes choses que tu as reçues », indique, c'est une forme passive, c'est-à-dire c'est des choses qu'il avait reçues d'ailleurs, que ce soit un héritage, peu importe, mais c'est des choses qu'il a reçues. Donc c'est des choses qui venaient de Dieu, et ces richesses appartenaient à Dieu. Mais ce qu'il en a fait, c'était, il les a consommés sur lui, il les a utilisés uniquement pour lui-même. Lazare n'est pas décrit comme guéri ou nourri dans le sein d'Abraham. Il est décrit comme consolé. Pourquoi consolé? Parce que quelqu'un s'occupe de lui. Il n'a plus à endurer les sons joyeux des banquets qui produisent des ordures qu'il voudrait tellement manger, mais qui sont jetées aux chiens. L'indifférence et le mépris du mauvais riche et de ses invités à son égard étaient pour lui peut-être plus difficiles à vivre que ses souffrances personnelles, ses plaies et le fait qu'il avait toujours faim. Abraham continue. « De plus, il y a maintenant un immense abîme entre nous et vous. » Et même si on le voulait, on ne pourrait ni le franchir pour aller d'ici vers vous, ni le traverser pour venir de chez vous ici. Verset 26. Bon, l'existence de l'abîme est facile à comprendre. Mais pourquoi mentionner l'impossibilité pour quelqu'un d'aller du paradis à l'enfer? Pourquoi est-ce que Abraham dit ça? Eh bien, tout porte à penser qu'Abraham, il a un volontaire. Et ce volontaire, ça ne peut être que Lazare. Il n'y a personne d'autre dans l'histoire. On peut donc penser que Lazare a dit à Abraham, « Écoute, je reconnais, c'est mon ancien voisin. Écoute, si je peux faire quelque chose pour lui, je suis prêt à le faire. » Il éprouve, il semblerait que cette histoire est écrite de telle façon à nous dire que Lazare éprouvait de la compassion pour son ancien voisin. Le mauvais riche a compris que ça ne marchait pas, alors il change de sujet. Versets 27 et 28. « Dans ce cas, dit alors le riche, je t'en conjure, père, envoie au moins Lazare dans la maison de mon père. » Car j'ai cinq frères, qu'ils les avertissent pour qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Une nouvelle fois, le mauvais riche prend l'attitude du mendiant vis-à-vis d'Abraham. Il lui demande quelque chose. Bon, a priori, c'est noble de sa part de penser à ses frères. Peut-être. D'un autre côté, il se soucie de ceux qui appartiennent à la même classe que lui, la même classe sociale, la classe supérieure. Alors que, apparemment, les démunis, les pauvres, pour lui, ne comptent pas. Si Lazare ne peut pas être son garçon de café, Il pourrait au moins faire le coursier envers ses supérieurs, comme les cinq frères. Reconnaître le tort qu'il a eu envers Lazare ne lui vient toujours pas à l'idée dans l'au-delà. Demander pardon, non. Sa vision du monde, la vision du monde qu'il avait avant de mourir, est la même après. Il n'a pas changé. Alors ça, c'est important. C'est important un peu parce que dans ces papiers-là que j'ai lus avec grand intérêt, il y a un scientifique qui est québécois qui lui dit tout ce qu'on nous raconte sur ses expériences EMI, c'est-à-dire ça veut dire expérience de mort imminente, où on essaye de dire une absence d'oxygène, où il y a le cerveau qui est stimulé à droite, à gauche, derrière, devant, c'est tout du bidon. Ce scientifique dit, en fait, tout porte à croire que les gens, quand ils meurent, ils partent avec leurs souvenirs. Les souvenirs ne vont pas dans la tombe. Les souvenirs, ils partent avec vous. Ça veut dire aussi que votre vision du monde, celle que vous aviez avant de mourir, elle part avec vous et vous la conservez après. Alors, c'est ce que dit ce scientifique-là dans ce papier. J'ai aucune raison de croire qu'il a raison, sauf que je trouve que ça cadre bien avec cette parabole. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que d'avoir une bonne connaissance des Écritures, c'est un étalon de mesure qui nous permet d'apprécier ce qu'on entend autour de nous, ce que les gens en blouse blanche disent. Par contre, dans ce même papier, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quelque chose qui est absolument faux. Et cette chose qui est absolument fausse, c'est la suivante. C'est que les gens qui ont fait une EMI et donc qui ont eu cette expérience de lumière qui les entoure, de paix, d'amour, ils rencontrent un personnage en blanc, ils passent dans un long tunnel et tout ça. Ça m'a toujours intrigué depuis que j'ai lu le livre dans les années 70 d'un certain psychiatre américain. La conclusion ici de cette étude, c'est que ces gens-là, ils ont plus peur de la mort. Mais ils sont pas chrétiens. Qu'est-ce que dit l'apôtre Paul dans le chapitre 8 du livre des Romains? Le dernier ennemi, le dernier qui sera vaincu, c'est la mort. Nous avons de bonnes raisons de craindre la mort. Il faut que je fasse attention à ce que je dise là. C'est dans le sens que la mort est pour nous, même si à notre mort, parce que nous sommes sous le sang du Christ, tout le mal que nous avons fait est effacé, n'est pas dans la valise. La mort est pour nous et pour tous ceux qui nous entourent et pour nos compatriotes, c'est un ennemi, c'est un grand ennemi. C'est la puissance de Satan. Alors, c'est la conclusion de ces scientifiques qui disent que, après tout, cette expérience est formidable parce que, après, vous avez plus peur de la mort, contredit l'enseignement des Écritures. Alors moi, je me suis dit, comment expliquer alors, parce que ce que vivent ces gens, c'est, je ne dis pas que c'est faux, ils le vivent, et je pense qu'ils le vivent vraiment. Eh bien, pour moi, et je ne sais pas si j'ai raison, mais pour moi, c'est une mise en scène. Moi, je pense que c'est une mise en scène qui est donc organisée par les puissances de l'au-delà, et pas par les bonnes, parce que ces gens-là qui n'ont pas peur de la mort, ils ont encore moins de raisons, après avoir fait cette expérience, de se tourner vers Jésus-Christ, après qu'avant. Donc, il y a quelque chose qui cloche là. Soit ces gens ont rencontré une certaine compréhension, c'est un être qui les comprenait, mais oui, tu as fait des erreurs dans ta vie, mais c'est vrai, mais il ne faut pas t'en faire, c'est pas grave, on va oublier tout ça. Mais alors, ça ne correspond pas du tout avec les Écritures. Hein. Dieu, il n'oublie pas. Pour Dieu, le moindre péché, c'est quelque chose de grave, et il a fallu que Jésus-Christ meure, même pour les petits péchés. Bon, c'est vrai qu'il y a des péchés plus graves que d'autres, puisque dans l'Ancien Testament, il existait des fautes qui étaient appelées les fautes à main levée, c'est-à-dire des rébellions ouvertes en toute connaissance de cause contre l'Éternel, ce qu'on retrouve, on retrouve aussi dans le livre des Hébreux. Donc, je ne dis pas que tous les péchés sont exactement au même niveau. Je ne dis pas ça. Mais je dis que le moindre petit péché est une offense personnelle à Dieu et à sa sainteté. Et donc, il n'est pas question de rencontrer un être compréhensif dans l'au-delà. Il n'y a pas, d'ailleurs, comme nous allons le voir à la fin de cette parabole, après la mort, il n'y a pas de seconde chance. Cette parabole est assez dure. Bon. Maintenant, je crois que j'ai parlé de ce que je voulais dire sur cet extrait de magazine du Figaro. Alors, nous en sommes toujours avec le mauvais riche et toujours avec Lazare, et nous sommes dans l'au-delà. Alors, le mauvais riche semble avoir un élan familial pour ses frères. Alors, comme Lazare ne pouvait pas être le garçon de café, il peut être le coursier. Malgré sa situation et tout ce qu'il voyait, alors c'est ça qui est quand même assez bizarre de la part du mauvais riche, c'est que Lazare, malgré sa situation et tout ce qu'il voyait, le riche, aucune des attitudes arrogantes du mauvais riche n'a changé. Pourquoi est-ce qu'il pense que ses frères modifieraient leurs croyances ou leur façon de vivre, à la vue d'un ressuscité? Lui-même, il a vu Lazare vivant, il n'était plus malade, il voit Lazare ressuscité, bon, sans un corps, mais enfin quand même sous forme ressuscité, enfin il est quand même bien, et ça l'a absolument pas changé, sa vision du monde, sa façon de voir est toujours la même, après dans l'au-delà, qu'avant, sur terre. Alors pourquoi est-ce qu'il croit que si Lazare ressuscite et va dire aux frères, écoutez, il faudrait peut-être que vous vous mettiez en ordre, mettiez votre vie en ordre et que vous respectiez la loi de Moïse, parce qu'après il y a un jugement, pourquoi est-ce qu'il pense, ce mauvais riche, que ses frères vont l'écouter? Et c'est bien ce que dit Abraham. Abraham répliqua, s'ils n'écoutent ni Moïse ni les prophètes, ils ne se laisseront pas davantage convaincre par un mort revenant à la vie. Moi, j'ai toujours pensé, et dans le livre de Michée, que je suis en train de faire, dans une de mes introductions, puisque je fais toujours une petite introduction, je dis ça, je dis, ben, moi, j'ai toujours pensé, si quelqu'un avait le don de guérison et puis il allait dans un hôpital de grands malades et puis il vide l'hôpital, ah, il aurait, tous les journalistes de France et de Navarre seraient là à ses pieds, il aurait tout le pays, le monde entier, ça traduit dans toutes les langues, tout le monde écouterait, tout le monde entendrait, tout le monde se convertirait à Jésus-Christ. Ça me semble logique. Ah, je commence une des émissions sur Michée exactement comme ça. Abraham, il n'est pas d'accord. Abraham dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre. Bon, alors, est-ce que Abraham a raison? Alors, dans l'évangile de Jean, il est question d'un autre Lazare. Si vous vous rappelez bien, c'est Jean chapitre 11. Que Jésus a ressuscité, c'est d'ailleurs dans la Bible française, dans la version française ou dans la version seconde, le verset le plus petit, le plus court de la version française, c'est « Jésus pleura ». Et il se trouve dans Jean chapitre 11, il a pleuré devant la tombe d'un autre Lazare. Alors, il a ressuscité cet autre Lazare, chapitre 11 de Jean. Alors, quand il est ressuscité, quelle a été l'attitude des chefs religieux? Ils n'ont pas bougé d'un poil. Non seulement ils n'ont pas bougé d'un poil, mais si vous lisez l'histoire, ils voulaient tuer Lazare. Oh, on ne veut pas d'un mort qui ressuscite, ça fait des ordres. On va leur envoyer d'où il vient. C'est dans Jean chapitre 11. Les chefs religieux et le grand prêtre n'ont pas bougé. Au contraire, la nouvelle que Jésus avait ressuscité Lazare les a confortés dans leur désir de mettre à mort Jésus. Jean chapitre 11, versets 45 à 50. Ils se sont dit, ce gars-là est dangereux, voilà qu'il ressuscite les morts. Il faut qu'on l'élimine. Voilà tout l'effet qu'a eu sur eux une résurrection. Ils n'ont pas essayé de la contredire, ce n'était pas possible. Il y avait beaucoup trop de gens qui avaient assisté à cette résurrection, qui l'avaient vue, qui étaient présents. Donc ils ont dit, ah, il est vraiment dangereux pour nous. Alors, ça nous fait penser que ce que je viens de dire, que mon introduction à Michel, là je suis à côté de mes pompes, hein, ça ne va pas faire l'affaire. Quelqu'un qui viderait un hôpital n'aurait pas autant d'impact, peut-être n'en aurait pas. Et quelqu'un qui ressusciterait des morts, apparemment c'est pareil. C'est bien de chercher des preuves historiques. Moi, j'en ai cherché des preuves historiques. Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce qu'il est vraiment le Fils de Dieu? Qu'est-ce qui le prouve? Est-ce que les Écritures, c'est la parole de Dieu? Mais attends, soyons sérieux. Prends les quatre évangiles, ils disent pas la même chose sur le même événement. Pourquoi tu me dis que c'est inspiré? Pourquoi? Alors, attends. Bon, c'est bien de chercher des réponses. Mais des réponses qui soutiennent la foi, mais la connaissance personnelle de Dieu et l'acceptation de Jésus comme sauveur échappent à toute recherche rationnelle. Il y a un élément de foi, qui d'ailleurs ne vient pas de nous. Hein. Si, vous savez, si nous croyons vraiment, moi je crois fermement à la souveraineté de Dieu. Et donc, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont été choisis pour croire. Ça ne veut pas dire que les autres ont été choisis pour pas croire. Hein. La Bible ne dit pas ça. Mais la Bible dit que les élus, ils ont été choisis pour croire. Et que c'est vrai que nous, étant donné que nous sommes morts, au sens spirituel du terme, à cause de nos fautes, on ne peut pas se ressusciter soi-même. On ne peut pas générer une foi. J'ai pas de foi, moi. Il n'y a pas de foi, là. Il a fallu qu'elle me vienne de l'extérieur. Et donc, c'est bien de chercher des preuves. Hein, ça, je suis pour, parce que je l'ai fait. Mais à un certain moment, on est confronté à un choix, devant un choix. Moi, un jour, j'étais confronté au fait que Jésus dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et ce verset, je peux prendre une gomme, essayer de la gommer. Je peux prendre un ciseau, essayer d'enlever le verset. Mais il est dans toutes les Bibles. Alors, il faut que je prenne toutes les Bibles et enlever ce verset qui me gêne. Je peux pas le faire. Je suis obligé de prendre position. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que j'accepte de le croire ou pas? Donc, à un certain moment, toutes les recherches cartésiennes qu'on peut faire, elles nous mènent devant un mur où il est écrit « choisi ». Donc, la recherche des preuves historiques, c'est très bien, je suis tout à fait pour, d'ailleurs je cherche toujours, mais à un certain moment, j'ai accepté que Jésus était la vérité, il est l'incarnation de Dieu, et ça n'a rien à voir avec ça, mais je vous ai déjà dit que j'ai fini la première épître de Jean. Et la première épître de Jean, C'est un grec qui est très très simple. Jean n'est jamais allé à l'école. Et donc, il a des petites phrases, sujet, verbe, complément. C'est, quand j'ai appris le grec, on a traduit la première épître de Jean parce que c'est le plus facile. Luc est très difficile, c'est du grec de la haute voltige. Mais Jean, pas. Et il parle beaucoup de la Trinité. Il parle beaucoup de la Trinité en termes très simples. Et parce qu'il parle de la Trinité et parce que sa terminologie est très simple, à la fin de Jean, j'en suis venu à croire, à avoir cette conviction que dans le royaume des cieux, nous allons voir Jésus et nous serons peut-être, nous sentirons peut-être la présence du Père, peut-être et aussi du Saint-Esprit, mais la personne que nous allons vraiment voir comme Dieu, c'est Jésus. La preuve, c'est quand Philippe a dit à Jésus, écoute, on t'aime bien, mais on aimerait bien voir le Père. Hein, vous vous rappelez, Jésus dit, mais enfin, il est devant toi. C'est pour ça que ce verset que je viens de vous citer m'a toujours fait penser que peut-être qu'aux cieux, nous ne verrions que Jésus. Et après avoir étudié la première épître de Jean, je crois bien que c'est ça, mais bon, je ne peux pas être... Enfin, si, Jésus pourrait nous dire, écoute, regarde ce que j'ai dit à Philippe. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'est-ce que tu crois que ça veut dire, ça? Celui qui m'a vu a vu le Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, c'est vrai. Celui qui t'a vu a vu le Père. Donc, on ne peut pas... j'ai trouvé ça intéressant. Et c'était en étudiant la première épître de Jean que j'ai été conforté dans cette idée que j'avais, que Philippe qui a demandé, montre-nous le Père. Bon, alors, le mauvais riche est donc décrit ici comme une brute épaisse, infectée par l'orgueil de sa race, qui a utilisé ses richesses pour sa propre satisfaction. Il n'avait que faire des autres, de ses serviteurs, des pauvres, de sa communauté et de Dieu. Vous voyez que le mauvais riche, il en a plusieurs couches. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est dépeint comme pas bien. C'est pas un gentil. Même après la mort, il considérait toujours Lazare comme inférieur. Donc, c'était un homme arrogant et un homme méchant. Voilà un peu comme il est vraiment décrit comme quelqu'un de peu recommandable. Lazare était misérable et souffrant sans que la raison nous en soit donnée. Hein, remarquez bien que Jésus, souvent, dans ses paraboles, il ne dit pas beaucoup de choses qu'on voudrait savoir. On se pose des questions et on n'a pas les réponses. Et là, on ne sait pas pourquoi Lazare est misérable et souffrant. La seule chose qu'on peut dire, c'est que la vie n'est pas juste. Il y a une semaine, je crois, 7-8 jours, il y a eu une terrible tempête et il y a 50 et quelques personnes qui sont mortes. Il y a des gens qui sont dans une très grande souffrance. Ils ont perdu leur entreprise, ils ont perdu leur maison. Ils ne savent pas de quoi l'avenir sera fait. C'est une véritable tragédie. Il y a eu ce qui est arrivé à Haïti il y a 2 mois. Le temps passe, je ne sais plus combien, peut-être 1 mois et demi. Il y a ce qui s'est passé au Chili. La vie n'est pas juste. Vous, là, nous dans l'Isère, et vous, ici, dans l'Ain, on a eu un peu de vent, pas trop de vent. Nos toitures, très bien. On n'a pas vu d'eau, il y a quelques gouttes en passant. C'est pas juste dans un sens, mais bon. Donc, la vie n'est pas juste, nous le savons fort bien. Bon, Lazare était misérable, il ne s'est jamais plaint, il ne s'est même pas plaint de ses mauvais traitements. Il semble être un homme qui a accepté sa condition. Il n'est pas aigri, il est patient et place son espérance en Dieu. Toutes ces choses-là ne sont pas dites, écrites. Mais c'est quand même le message qui transpire de cette parabole. Son silence, avant et après la mort, est éloquent. Au ciel, il ne pavoise pas, il dit rien. C'est quand même curieux que le riche a tant de choses à dire et que Lazare n'a rien à dire. Il ne proteste pas contre les demandes du mauvais riche, et au contraire, il semble bien qu'il est prêt à l'accommoder. Il semble bien que Abraham avait un volontaire pour soulager le riche. Dieu a donc toujours été avec Lazare. Donc, il porte bien son nom malgré les apparences. Alors, c'est marrant son nom. On aurait pu penser qu'il était quelqu'un qui n'était pas aidé de Dieu jusqu'au moment où, quand il est mort, les anges se sont déplacés pour aller le chercher et le porter dans le sein d'Abraham, où il est, où une fête a été mise en place, célébrée pour lui. Certaines personnes le déplaçaient chaque jour. On ne sait pas qui sont, ce sont des personnes anonymes. Et les chiens errants étaient ses amis. Les anges, Abraham, ont pris la relève. Le point focal de cette parabole n'est pas le renversement des rôles entre Lazare et le mauvais riche. C'est ça qui surprend, parce qu'on pense, je pensais quand j'ai lu cette parabole 2-3 fois, que c'était ça, c'était le renversement des rôles. Mais ce n'est pas ça le sujet de la parabole. On voit souvent d'ailleurs dans plusieurs autres paraboles que ce qui nous saute aux yeux n'est pas vraiment l'enseignement de la parabole. Donc ce n'est pas le renversement des rôles, mais c'est ma réaction face à ce qui arrive en bien ou en mal dans ma vie et je dois lui donner un sens chrétien. C'est ça le message de cette parabole. C'est quelle va être ma réaction si j'ai beaucoup d'argent, si je suis misérable et malade, face aux injustices de la vie, et comment, quel est le sens chrétien que je peux lui donner. Une autre leçon de cette histoire qui est évidente est qu'il faut invoquer le Seigneur ici-bas, et sa révélation écrite est suffisante pour le connaître. C'est ce que Abraham a dit. Ils ont la loi et les prophètes qui les écoutent. Une fois franchis les portes de la mort, c'est fini. Les jeux sont faits. Les dés sont jetés. Il est trop tard. Voilà comment moi j'ai vu cette parabole. Il y a quelqu'un qui pourra la voir peut-être sous un angle un peu différent, mais enfin ça peut vous aider à la relire en ayant ces idées à l'esprit et surtout en lisant tout ce qui précède l'enseignement que Jésus a donné avant la parabole. Ça aide ensuite à la lire. Et mieux encore, c'est de lire les 3 paraboles, parce que les 3 paraboles se suivent. C'était le même discours de Jésus, la trilogie. Et elles parlent toutes de l'argent, hein, un qui dépense l'argent de son père, un qui dépense l'argent de son patron ou de son maître, et un qui dépense mal aussi son argent. Voilà, on ne m'avait pas dit combien de temps on me donnait, alors donc j'avais toute l'après-midi. Mais je vous remercie pour votre patience. Il faut me dire ces choses, parce qu'il y a des églises, ils vous disent, hein, tu as 5 minutes. Pas 6, 5 minutes. Voilà, alors je vais finir par la prière. Seigneur, nous te remercions pour les paraboles, même si c'est vrai que il y en a qui sont quand même difficiles, les paraboles qui ne sont pas expliquées. Nous te remercions parce que même si nous ne les comprenons pas à 100%, il y a suffisamment d'enseignements dedans pour que nous interroger, nous interloquer, pour nous faire réfléchir et pour que nous reconsidérions ce qu'est notre vie à la lumière de ce que tu voudrais qu'elle soit. Et pour cela, nous te rendrons grâce pour les paraboles et pour toute ta parole. Au nom du Seigneur. Amen.